Voilà, avant de commencer, je vous invite à prier. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole que l'on peut voir et étudier aujourd'hui. Merci parce qu'elle est vivante. Seigneur, je te prie qu'elle puisse nous imprégner dans nos vies, que l'on puisse bien comprendre, en retirer quelque chose aussi pour les semaines à venir. Amen. Alors nous poursuivons notre série sur les petits prophètes. Et aujourd'hui, donc, je reprends Joël. On avait vu en partie le dimanche de la Pentecôte, lorsqu'on avait parlé de cette prophétie de Joël qui donc annonçait la Pentecôte. Mais aujourd'hui, on va essayer de voir un peu plus en général le livre de Joël. Qu'est-ce que ce prophète, d'il y a des dizaines de siècles, a nous apporté aujourd'hui? On reparlera un petit peu de la Pentecôte, mais principalement, je reviendrai pas en détail dessus. Ce qu'on avait vu, c'était donc la Pentecôte était liée à la naissance de l'Église, que la mission de l'Église, c'était de témoigner de Jésus-Christ, et que l'œuvre du Saint-Esprit en chacun de nous était là pour nous accompagner dans ce témoignage. Alors le livre de Joël est assez surprenant. S'il commence par nous parler de sauterelles, de criquets, de grillons qui ravagent le pays d'Israël. Je ne sais pas si vous avez parfois l'impression, en regardant, que la végétation commence à être grillée par la chaleur, mais dans ce qui nous est décrit, c'est 100 fois pire, 1000 fois pire. Il ne reste plus rien debout. Mais alors, est-ce que vous connaissez déjà Joël? Vous savez qui est Joël? En fait, on n'en sait pas grand-chose de ce Joël. Tout ce qui nous est dit, c'est au verset 1, Joël est le fils de Pethuel. Pethuel, on ne le connaît pas plus. Et en fait, Joël commence tout de suite son texte en disant que ce qui est important, c'est pas qui il est lui, mais c'est ce qu'il va dire ensuite. Les trois premiers versets sont donc paroles que l'Éternel a adressées à Joël, fils de Pethuel. Écoutez ceci, vous, responsables du peuple, vous tous, habitants du pays, prêtez l'oreille. Est-il de votre temps ou bien du temps de vos ancêtres survenu rien de tel? Racontez-le à vos enfants, que même le racontent à leurs propres enfants, qui eux le transmettront à leurs propres enfants. Ce qui est important, donc, c'est ce que Joël a nous transmettre, cette catastrophe qui survient. Nous est décrite au verset 2, on a vu qu'il n'y a rien eu de tel. Et puis ensuite, la description fait peur au verset 4. Ce qu'a laissé le vol de sauterelles, d'autres sauterelles l'ont dévoré, ce que les sauterelles ont laissé, les criquets l'ont mangé, ce que les criquets ont laissé, les grillons l'ont mangé. Il ne reste plus rien debout, le pays est dévasté, plus de vignes, plus de figuiers, plus d'oliviers, plus de blé, plus de grenadiers, plus de palmiers, plus de pommiers, tout est ravagé. Verset 7, il a fait de mes vignes une dévastation et mes figuiers il les a mis en pièces. Il a complètement pelé leurs troncs et jonché le sol de débris. Leurs rameaux sont tout blancs. Verset 10, les champs sont ravagés et la terre est en deuil car le blé est détruit. Le vin nouveau est dans la honte, l'huile fraîche a tari. Alors dans ce contexte d'une destruction totale de la nature autour, Joël en fait va inviter le peuple à implorer Dieu. Au verset 14, on peut lire « Publiez donc un jeûne, convoquez une réunion cultuelle, rassemblez les responsables du pays avec tous les habitants du pays au temple de l'Éternel, de votre Dieu, suppliez l'Éternel. » Pour Joël, la catastrophe qui arrive, c'est le jugement de Dieu. C'est le prélude à ce qu'il va décrire dans ce livre comme le jour du Seigneur. Alors je vais juste faire une petite parenthèse sur cette notion de jour du Seigneur qui revient à plusieurs reprises dans le livre. Et elle revient donc dans le livre de Joël, chez d'autres prophètes aussi, dans le Nouveau Testament plus tard également. Le jour du Seigneur, c'est un jour où Dieu intervient. Un jour où il manifeste sa colère. Il vient contre les coupables. c'est un jour de jugement par Dieu, de son peuple et des autres nations. Alors, il n'y a pas un seul jour comme celui-là qui existe, dont il est parlé dans la Bible. C'est utilisé par d'autres prophètes pour des événements majeurs dans l'histoire d'Israël, comme la chute de Samarie, dont nous parle Amos, le siège de Jérusalem, dont parle Ésaïe. Mais ce sont plusieurs jours du Seigneur qui jalonnent l'histoire en attendant le jour du Seigneur final, à la fin des temps. Et dans ce jour de jugement, il est certes question donc de la condamnation de ceux des coupables contre qui la colère de Dieu se manifeste, mais également il est question de salut pour ceux qui en réchappent. Alors si on en revient à Joël nous décrit donc des dégâts dans tout le pays. Des dégâts qui sont le prélude d'un jour terrible, un jour du Seigneur à venir. Au chapitre 2, verset 3, il reprend « Un feu dévore devant lui, la flamme consume derrière lui. Avant qu'il ne le foule, le pays s'étendait comme un jardin d'Éden, mais après son passage, ce n'est plus qu'un affreux désert, tout entier, dévasté. Non, rien ne lui échappe. » Cette attaque des sauterelles est décrite comme l'avant-garde des troupes qui viennent pour le jour du Seigneur. Au verset 11 de ce chapitre 2, à partir du verset 10, « La terre tremble devant eux, le ciel est ébranlé, le soleil et la lune sont plongés dans l'obscurité, les astres perdent leur éclat, tandis que l'Éternel fait retentir sa voix en tête de ses troupes. Son camp est tellement nombreux, il est si puissant, celui qui exécute sa parole. Le jour de l'Éternel est grand et terrible à l'extrême. Qui pourra l'endurer ?» Jusque-là, dans le livre, rien de bon nous est annoncé. On voit Dieu en train de combattre son peuple, en fait. On ne sait pas pourquoi. Et c'est un peu plus loin, au verset 14, on voit quand même que Dieu n'a pas pour objectif la destruction. Donc chapitre 2, verset 12 à 14. « Mais maintenant encore, l'Éternel le déclare, revenez donc à moi, revenez de tout votre cœur, avec le jeûne, avec des larmes et des lamentations, déchirez votre cœur et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu. Car il est plein de grâce, il est compatissant et lent à la colère, il est riche en amour, et il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé. Qui sait ? Peut-être l'Éternel se ravisera-t-il et changera-t-il lui aussi de ligne de conduite ? Qui sait s'il ne laissera pas derrière lui une bénédiction pour que vous puissiez faire des offrandes, des libations à l'Éternel, lui qui est votre Dieu. » C'est un appel à la repentance que nous adresse Joël. L'Éternel dit « Si vous revenez à moi, je ferai grâce. » Le combat de Dieu à l'encontre de son peuple, c'est pour l'amener à cette repentance. Dans ma vie, dans la vôtre aussi, quand tout va bien, j'ai tendance à moins me soucier de Dieu, de son regard sur ma vie. La confiance en soi, l'orgueil, je m'en sors seul, il y a moins besoin de prier, j'accorde moins d'importance, moins de temps à Dieu. Mais lui, il se rappelle à moi. Tension, dépression, absence de joie, Dieu est jaloux. Et il nous le fait comprendre. Mais maintenant encore, l'Éternel le déclare, revenez donc à moi, revenez de tout votre cœur. Il nous invite à revenir de tout notre cœur, 100%. Pas simplement le dimanche, d'ailleurs juste le dimanche matin, ou quelques moments particuliers avant un repas ou de dormir. Revenir à Dieu de tout notre cœur. Et suite à cet appel de Joël, c'est ce qui va se passer pour le peuple. Le peuple va se repentir et on peut lire à partir du verset 18. « Ah, l'Éternel éprouve pour son pays un amour passionné et il a pitié de son peuple. C'est pourquoi il répond et il dit à son peuple « Je vais vous envoyer le blé, le moût et l'huile fraîche et vous en serez rassasiés. Je ne vous exposerai plus à l'opprobre parmi les peuples, et l'ennemi du nord, je l'éloigne de vous. Oui, je le chasse en une terre aride, un pays désolé, en expédiant son avant-garde vers la mer morte et son arrière-garde vers la mer Méditerranée. Là, il exhalera sa puanteur, son affection se répandra, car il a fait de grandes choses. Ô terre, sois sans crainte, jubile et réjouis-toi. L'Éternel fait de grandes choses. Soyez sans crainte, bêtes sauvages, car les pacages de la steppe vont reverdir. Les arbres sont chargés de fruits, le figuier et la vigne font abonder leur riche production. Et vous, gens de Sion, soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous à cause de l'Éternel, votre Dieu. Lui qui est votre Dieu, il vous envoie la pluie selon ce qui est juste. Il répand sur vous les averses, les pluies d'automne et les pluies du printemps, tout comme auparavant. Alors les aires se rempliront de grains et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Oui, je vous dédommage pour les années qu'ont dévoré les sauterelles. Sauterelles, criquets, grillons et vols de sauterelles, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Vous mangerez à satiété et vous louerez l'Éternel, votre Dieu, qui accomplira pour vous des choses merveilleuses, et jamais plus mon peuple ne connaîtra la honte. Et vous reconnaîtrez que je suis moi, au milieu d'Israël, et que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre. Et jamais plus mon peuple ne connaîtra la honte. C'est une restauration magnifique. Tout reverdit. Et en fait, dans la fin de ce passage, on y apprend ce que Dieu voulait en combattant son peuple. Verset 27. Vous reconnaîtrez que je suis moi, au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre. Que l'on reconnaisse qu'il est au milieu de son peuple, qu'il est le seul Dieu. Il ne veut pas d'un amour à temps partiel, d'un amour du bout des lèvres. Ce qu'il souhaite, c'est que son peuple reconnaisse qu'il est le seul Dieu. Dans nos vies, on a vite fait d'amener d'autres dieux. On va chercher notre sécurité via notre argent, nos bonnes relations, notre force, notre intelligence. Ou alors on s'enfuit. S'enfuit dans des passe-temps dans lesquels on espère trouver une identité. Notre travail, nos loisirs, notre vie de famille. On a vite fait de mettre Dieu à l'arrière-plan. Un joli décor. Et pas le cœur de nos vies. Mais ce que Joël nous rappelle là, c'est que Dieu est un Dieu jaloux. Il veut vivre au milieu de son peuple. Et ainsi le bénir. C'est donc là la première partie du livre de Joël, donc qui nous relate des faits terribles qui ont atteint Israël. Joël les décrit, il appelle à la repentance, et il constate la grâce de Dieu, qui non seulement met un terme au malheur, mais ouvre la porte à des bénédictions. Le jour du Seigneur était proche, mais Dieu s'est repenti, et le jugement final n'est pas arrivé. Et dans la seconde partie, donc les chapitres 3 et 4, Joël va regarder à l'avenir. En s'appuyant sur ce qu'Israël vient de vivre, et inspiré par Dieu, il va révéler des événements qui précéderont ce jour du Seigneur final. Et il voit principalement deux choses. Tout d'abord, il voit l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu répandu, c'est le chapitre 3. Et puis, au chapitre 4, il voit un jour terrible de jugement. Je lis juste les deux premiers versets du chapitre 4. « Voici en ces jours-là, en ce temps-là, lorsque je changerai le sort de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai tous les peuples. Je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat, c'est-à-dire là où l'Éternel juge. Alors j'entrerai en jugement contre eux, au sujet de mon peuple, celui qui m'appartient, celui qu'ils ont dispersé au milieu des nations et au sujet de mon pays qu'ils se sont partagés. » Dieu combattra, jugera les peuples qui rejettent son salut, les peuples qui rejettent le peuple qu'il s'est choisi. C'est un jugement envers toutes les nations. Voilà dans ce chapitre 4, une multitude est rassemblée. Les nations considèrent qu'elles forment une coalition qui est là pour combattre le peuple de Dieu. Mais en fait, c'est Dieu qui les rassemble, qui rassemble pour juger. Et si on regarde une petite comparaison entre les deux premiers chapitres et les deux suivants, on voit que l'attitude est différente face à la colère divine. Dans Les premiers chapitres, on a vu que la réaction est de publier un jeûne et de se repentir. Alors que dans ce chapitre 4, face au jugement de l'Éternel, c'est une publication de guerre. Au lieu d'un mouvement de retour à Dieu, et dans ce temps de jugement que Joël prophétise, il y a quelque chose d'assez important que je trouve, c'est au verset 16 du chapitre 4, il nous est dit « Il rugit l'Éternel à partir de Sion et de Jérusalem. Il donne de la voix et le ciel et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple. Il est une retraite pour les Israélites. » On a la deux images de Dieu. À la fois, un lion qui rugit et un refuge. À travers de cela, ça nous parle de qui est Dieu. Pour lui, il n'y a pas de « tout le monde sera sauvé », mais pas non plus de « tout le monde est coupable et doit mourir ». Ces chapitres de Joël sont aussi un appel à la repentance, à revenir à Dieu. Au verset 17 de chapitre 4, il est dit « Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui réside en Sion, mon saint mont, Jérusalem sera un sanctuaire, et plus jamais les étrangers n'y paraîtront. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » C'est le même but que celui évoqué par Joël dans la première partie, où il était écrit « Et vous, vous reconnaîtrez que je suis moi au milieu d'Israël, et que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre. » Le but de Dieu, et il va l'atteindre, c'est d'être vu comme le Dieu unique parmi toutes les nations, parmi son peuple qu'il s'est choisi. Et face à ce jugement à venir, personne n'est condamné d'avance. Au chapitre 3, verset 5, Joël écrit « Alors, tous ceux qui invoqueront l'Éternel seront sauvés, selon ce qu'a dit l'Éternel. » La possibilité est donnée à chacun de s'en sortir. Le salut est pour tous. Ceux qui invoqueront l'Éternel seront sauvés. Cette bonne nouvelle, Jésus l'a réaffirmée. On peut le lire dans les évangiles. Les premiers chrétiens l'ont expérimenté également dans le livre des Actes. Le salut est ouvert à tous. Et comme dans la première partie, la repentance amène à la bénédiction. Au verset 18, dans le chapitre 4, Joël écrit, donc suite à cette repentance, « Alors en ce jour-là, le vin nouveau coulera des montagnes, et les coteaux ruisselleront de lait, et dans tous les torrents de Juda, l'eau coulera, et du temple de l'Éternel jaillira une source, et elle arrosera le val des Acacias. » Cette promesse de source purificatrice, la présence de l'Éternel parmi son peuple. Je vous invite à lire en Jean 7, versets 37 et 38, qui font écho à ces versets dans le livre de Joël. Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive, car, comme le dit l'Écriture, les fleuves d'eau jailliront de lui. » En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croyaient en lui. La venue de Jésus et ensuite du Saint-Esprit parmi son peuple, parmi les croyants, les chrétiens, c'est là cette promesse, cette bénédiction qui entre en œuvre. Alors dans ce livre de Joël, au-delà de nous décrire les ravages causés par les nuages de sauterelles, je retiens particulièrement deux choses. Le fait de revenir à Dieu, cet appel à revenir à Dieu de tout son cœur, et la bénédiction d'avoir Dieu au milieu de son peuple. Revenir à Dieu de tout son cœur, c'est se poser la question des autres dieux dans nos vies, la question d'avoir un Dieu en arrière-plan, un Dieu quand ça ne va pas uniquement, c'est la question de tout son cœur, le 100%. C'est un vrai défi, en tout cas pour moi. Mais il y a aussi cette bénédiction d'avoir Dieu au milieu de son peuple. Dieu n'est pas lointain. Il souhaite résider auprès de son peuple, auprès de nous. Il est venu par Christ. Jésus lui-même est cette source d'eau vive. Et à la Pentecôte, Dieu nous a laissé son esprit. Jésus lui-même disait qu'il était préférable que son esprit vienne et que lui s'en aille. Et comme l'a dit Sandra tout à l'heure, Jésus intercède pour nous. Cette bénédiction d'avoir Dieu au milieu de son peuple, à nos côtés. Alors j'espère qu'avec ce court survol du livre de Joël, cela vous est un peu désormais moins obscur. Pour moi, c'est le cas. Et je retiendrai ce verset, un verset qui me parle à la fois de cette imminence du jugement, mais également de la volonté de Dieu, que l'on le choisisse lui plutôt que la mort. C'est le verset 12 du chapitre 2. « Mais maintenant encore, l'Éternel le déclare, revenez donc à moi, revenez de tout votre cœur. » Revenez avec le jeûne, avec des larmes et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu. Car il est plein de grâce, il est compatissant et lent à la colère. Et il est riche en amour et il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé.